Il est 16h49, vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 418-971-1021 pour nous rejoindre sur les routes Audrey.
Il y a encore des problèmes si vous êtes sur la capitale direction Est, quoique ça se libère tranquillement pas vite. Ouest, c'est entre Henri-Bourassa et Laurentienne. Henri IV Sud, à partir de Versant Nord, ça ralentit jusqu'à l'entrée des ponts, surtout du pont Pierre-Laporte. Et pour la 20 direction Ouest, c'est là aussi le pire, là, sur la rive sud, entre la route du président Kennedy et Taniata. Autre chose, c'est le 418-971-1021 texto.
Je ne sais pas si elle travaille encore à essayer de trouver le côté positif des histoires horribles qu'elle couvre au palais de justice. Elle a tout un défi aujourd'hui. Judith Demeul, journaliste judiciaire au Soleil. Salut Judith.
Allô.
Comment ça va?
Ça va bien, vous?
Oui, ça va. Des histoires d'horreur au palais de justice concernant... nous autres, on en a parlé vendredi.
Grosse journée vendredi.
Oui? Ouais. Une journée assez
chargée en émotion.
Peut-être commencer avec le père qui a caché des caméras dans sa maison pour surveiller la santé mentale de ses ados.
Oui, c'est un père dans la quarantaine qui avait caché des caméras et des micros là, sur des haut-parleurs dans la chambre de ses enfants et celle de sa conjointe.
Combien de temps?
Plusieurs années. Puis, à un moment donné, les enfants avaient trouvé les micros, les haut-parleurs, puis ils les avaient retirés en sachant pas trop c'était quoi, puis lui, il les avait même remis. Donc, il y avait vraiment un contrôle là, distant qui était exercé parce qu'il entendait tout et il captait tout, puis il classait ça dans des fichiers sur son ordinateur, dans son bureau, même que ses propres caméras l'ont vu classer ces vidéos-là sur son ordinateur.
Oh, mon Dieu!
Parce qu'après, évidemment, à un moment donné, les enfants se sont rendus compte qu'ils savaient des choses qui avaient pourtant été dites derrière porte close.
C'était quoi le contexte ou c'était quoi le problème de cet individu-là à vouloir surveiller tout le monde dans sa maison?
Bien, c'est vraiment un dossier profond de contrôle et d'abus de confiance. Là. Lui, quand il a été arrêté, il s'est justifié rapidement en disant « Oui, oui, je les ai mis, les caméras, là, il n'y avait pas de question de s'il les avait mis ou non. » Lui disait qu'il voulait surveiller la santé mentale de ses enfants parce qu'il disait qu'ils allaient plus ou moins bien, que l'adolescence était difficile, puis qu'il y avait peut-être des pensées noires. Donc, il voulait garder un peu le contrôle là-dessus pour les protéger. Mm-hmm. C'était sa justification. Puis pour la chambre de la conjointe, bien, il voulait vérifier si elle ne le trompait pas. Donc, il y avait... Lui, c'était pour ça que c'était légitime pour lui de mettre ces caméras-là dans la maison là, familiale. Puis, il faut dire qu'il y a eu plein de visites entre-temps. Donc, il y a des membres de la famille élargie qui ont été aussi captés par ces caméras-là. Donc, c'est vraiment une famille là, qui a vécu un... Bref, qui...
C'est une trahison.
C'est une trahison tellement énorme qui... Puis ça va au-delà de ça, là, parce que oui, lui, il a ramassé plusieurs accusations de pornographie juvénile parce qu'évidemment, les adolescents étaient nus et faisaient des choses que tu fais tout seul chez vous.
Ben oui.
Dans ta chambre, puis c'est correct.
Fait tu te poses pas de questions.
Lui,
hein.
Il classait même ces vidéos-là de type pornographie juvénile dans un dossier spécial. Puis ce qui était particulier avec ce dossier-là, c'est que lui ne reconnaît pas encore à ce jour que c'est mal et qu'il y a une certaine déviance, une problématique par rapport à ça.
Est-ce que c'est un gars qui peut se ramasser avec une étiquette de délinquant dangereux à partir du moment où il voit pas le mal dans ce qu'il a fait?
C'est que si c'est un peu du déni, lui va justifier toujours d'un côté, mais les professionnels savent que c'est pas vrai, ça tient pas la route. Et la juge l'a bien expliqué parce qu'il a été condamné à 5 ans de prison, ce qui est quand même énorme. Puis elle l'a dit, elle dit « Moi, je crois pas à vos explications, ça ne fait pas de sens. Et pour moi, vous avez une problématique. Et tant aussi longtemps que vous n'admettez pas la problématique, on pourra pas vous soigner et votre risque de récidive va être élevé. » Et ben ça joue sur la peine, puis ça joue sur la libération conditionnelle.
Est-ce que les membres de la famille ont témoigné dans un procès comme celui-là?
Ils ont témoigné parce que lui avait plaidé coupable. Comme je vous dis, il a toujours reconnu qu'ils avaient installé ces caméras-là. Ouais. Ils ont témoigné lorsqu'ils ont plaidé pour la peine, aux représentations sur sentence qu'on appelle. Puis c'est vraiment des témoignages déchirants parce que c'est des gens qui ne referont plus jamais confiance, qui se sont fait, qui ont été trahis par la personne la plus proche d'eux.
C'est ton intimité puis ta vulnérabilité.
C'est profond, là, parce que pendant plusieurs années, tout ce que tu faisais, tes faits et gestes, tout ce que tu disais était capté et écouté par cet homme-là.
Hey, mon Dieu Seigneur, moi je repense à tout ce que j'ai fait dans ma chambre quand j'étais adolescent.
Ben voilà.
Pas sûr que j'aimerais ça que mes parents aient le tape.
Ben. Puis c'est correct, c'est fait pour que tu fasses tes affaires.
Ben là, c'est ça, écoute.
Puis la juge l'a dit, puis la juge l'a bien expliqué, là, c'était tellement intrusif que les peines ont été consécutives pour chaque personne.
Au lieu de
parce
faire un lot.
Parce que souvent, on parle de peines concurrentes parce
là,
que c'est
allé
le crime.
Plus, on est allé plus loin qu'on pouvait,
la,
dans le fond.
Mais la juge était comme, je peux pas faire concurrence parce qu'il y a des gens qui ont souffert de façon différente et tout. Donc, on a c'était vraiment... La peine de 5 ans était... Parce que la poursuite demandait 6. Puis la poursuite va toujours un petit peu plus haut. Fait qu'elle, elle s'est quasiment collée à la suggestion de la poursuite. Lui, il voulait faire des travaux communautaires et un an de prison, la peine minimale.
Une famille violée dans son intimité pendant plusieurs années. Un gars qui ne connaît pas ses torts. Oui. Le rayon...
Ça fait mal. Puis je pense que ça fait d'autant plus mal que la personne, à ce jour, croit qu'elle était légitime dans ses actions. Oui. Puis c'est ce que j'ai ressenti là, dans la salle parce que toute la famille était là. Ils se serraient les coudes et traversent un peu ça ensemble.
Tout le monde est du même bord, là.
Oui, oui, sauf lui, tu sais.
Ouais.
Fait que c'est, pour eux, c'est, les blessures sont énormes et ils espèrent guérir, là, mais ça va prendre beaucoup de temps là, pour refaire confiance à quelqu'un.
Mon Dieu. L'autre histoire qui a retenu l'attention, un homme qui a frappé des enfants avec un tisonnier, à coups de tisonnier.
Ouais. Tu sais, quand je vous dis qu'il s'en passe des affaires dans une salle d'audience des fois, là, puis que c'est lourd, puis que c'est profond, puis qu'il n'y a personne qui va être là, là, ben ça, c'était ces moments-là. Il n'y avait personne qui voulait être là au palais de justice pour gérer ce dossier-là. Et de tous les côtés et de tous les bords. Puis c'était tough parce qu'on parle de gestes qui sont incompréhensibles. Mmh. Fait sur des jeunes enfants. Là. Puis
très bas.
Jeunes
en fait,
enfants,
peu importe l'enfant, mais là, c'est très bas âge. Là.
C'est très bas âge. C'est des gens, des êtres, des minuscules et sans défense et vulnérables. Et c'était très, très lourd.
Peux-tu rappeler ce qui s'est passé, Judith?
C'est en octobre 2023. C'est Alexis Lavoie-Gilbert qui n'allait pas bien, là, qui avait des problèmes psychologiques quelconques, puis qui se soignait, mais qui a été jugé apte, en passant, à subir les procédures. Puis il y a, sous le coup de la colère, puis on peut moyennement dire le contexte, étant donné qu'il y a une ordonnance qui protège ces enfants-là, sous le coup de la colère, parce que ça a été dit, il a frappé les enfants. Il y en avait deux, il a commencé à frapper l'un d'eux. Puis ça s'est mis à crier, évidemment, parce que même s'ils sont jeunes, ça crie. Puis une personne qui était dans la maison qui est venue intervenir pendant qu'il frappait le deuxième enfant. Et donc, le premier a des conséquences plus importantes que le deuxième.
Qu'est-ce qui est le... Tu sais, qu'est-ce qui est le plus dur quand on exprime ça ou quand on montre la preuve au palais de justice? C'est-tu parce qu'il y a eu des photos? C'est-tu les descriptions?
C'est un plaidoyer de culpabilité, parce que là, cet homme-là a eu la décence d'esprit d'offrir à tout le monde un règlement pour éviter un procès, qui aurait été des plus difficiles à faire.
Mm-hmm.
Donc, il a plaidé coupable à deux chefs de voies de fait graves au lieu de deux chefs de tentative de meurtre. Donc, on a des accusations réduites, mais ça ne change rien pour la peine. C'est 15 ans total qui va passer en dedans.
Okay.
Puis quand ça se passe pour le plaidoyer, ben la procureure va lire un résumé des faits. Puis le résumé est écrit, il est sur une feuille, puis elle le lit. Fait que jusque-là, ça va. Parce que oui, tu lis des choses qui ne font aucun sens, mais ça reste sur papier, puis c'est lu par la procureure qui est un petit peu détachée de ça.
Ouais.
Puis ensuite, comme je vous le dis souvent, on offre aux victimes et aux proches de témoigner sur les conséquences du crime. C'est quand la maman des enfants a pris la parole dans une longue déclaration, solide, bien ficelée.
Elle l'a fait elle-même?
Oui, elle l'a lu elle-même, puis c'est là que ça fesse, parce qu'elle, ce qu'elle dit, c'est vrai. Là. Elle a le vécu. Puis c'est là que ça shake un peu, parce que quand tu dis qu'il a fait ça, c'est court, puis tu le sais, OK, oui, c'est épouvantable. Mais là, après, tu regardes à quel point les conséquences sont énormes. Puis là, on parle des blessures des enfants. Oui, ça avait des traumatismes crâniens parce qu'ils ont été frappés à la tête.
Il y a des blessures physiques, mais c'est au-delà de ça.
Puis après, c'est quand on dit qu'ils ont aussi des fractures sur les doigts et sur les bras parce qu'ils ont essayé de se protéger. Mais là, ça te met... Là, tu commences à avoir assez de contenu pour t'imaginer la scène. Puis cette maman-là, elle l'a dit elle-même, elle a dit « Je suis pas maman, je suis maman gestionnaire de trauma. Mes enfants sont plus capables d'être seuls. Mes enfants souffrent de ça, s'en souviennent. Il y a une mémoire consciente parce qu'ils étaient jeunes. » Mais aussi une mémoire traumatique qui prend le dessus. Là. Les experts pourraient mieux l'expliquer que moi. Mais puis c'est dur encore à ce jour d'évaluer les séquelles à long terme de ces enfants-là. Fait que c'est tout le temps... T'es tout le temps sur tes gardes. T'es tout le temps en train d'analyser est-ce que c'est mon enfant, mon vrai, ou c'est mon enfant qui réagit comme ça à cause des séquelles vécues. c'était vraiment tough. Puis quand t'es dans la salle, puis tout le monde trouve ça tough, il y a comme personne qui
est de glace.
Ben, tu sais, l'avocat de la défense, il est pas bien, il file pas parce qu'il est pas insensible à ça, même s'il défend l'accusé.
Ça doit être lourd en tabarnouche dans cette salle-là. Là.
Ben oui, c'est lourd.
Puis la juge. De passer par là, là.
La juge, elle a cassé en s'adressant à la maman parce que, tu sais, elle aussi, elle est mère, là. Tout le monde est des humains là-dedans. Puis elle a voulu lui dire, vous êtes plus qu'une maman gestionnaire de trauma. Mm. Je vous souhaite, avec tout mon être, que ça aille mieux pour la suite.
Hey, mon Dieu.
Et on a souligné, évidemment, l'aplomb et le courage de cette femme-là, qui avait d'ailleurs fait installer des paravents pour ne pas qu'elle puisse regarder l'accusé pendant qu'elle
est. Puis lui, toi, t'avais-tu... Est-ce que tu le
mais
voyais?
Ça fait que personne
ne
l'a vu, en fait.
OK, c'est ça, c'est vraiment
encadré
devant
de paravent, comme étant donné qu'elle ne doit pas le voir, okay. Ça fait que nous, on l'a tous pas vu.
Nous autres, vendredi après-midi, on a fait une chronique bière. Le vendredi, souvent, on est plus léger. On s'est amusé avec Richard Martineau. Puis je pense que dans bien des jobs, un vendredi après-midi, on est déjà un peu à 50 % en mode week-end.
Mm-hmm.
Ton vendredi après-midi, ça a été d'entendre ces causes-là. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas traîner ça toute la fin de semaine à la maison?
Bien, on en jase avec les personnes qui comprennent. C'est les collègues du palais de justice, c'est aussi les collègues du Soleil. Puis on ferme les livres, puis on prend un petit verre.
Ouf!
Mais c'est le genre d'histoire qui te garde longtemps, puis on en parlait encore ce matin au bureau.
Ouais.
Puis on en parle aussi avec les avocats qui sont là parce que tout le monde comprend un petit peu, mais c'est...
Pas grand rayon de soleil là-dedans, là.
Non, puis c'est correct de... Tu sais, je le dis tout le temps, c'est correct de dire que ça s'est passé, puis il faut pas faire comme si ça existe pas, ces choses-là. Là, je vous le dis, là, sinon c'est mettre des lunettes roses. Ces choses-là arrivent. Maintenant, on doit les traiter. Il faut qu'il y ait des conséquences. Puis il faut qu'on pèse sur le crayon pour dire ça, là, si vous faites ça, ça va être sévèrement puni. Puis c'est tout ce que le tribunal peut faire, là, envoyer un message de dénonciation et de dissuasion le plus puissant possible. Regardez tout ce que ça fait, là, si vous agissez comme ça. Voici les conséquences. Elles sont graves. Pensez-y deux fois.
Judith, encore un gros merci pour ta belle humanité, ta grande sensibilité quand tu nous racontes ces histoires-là. Tu surveilles quoi cette semaine au Palais de justice? T'es-tu sur un dossier en particulier?
Oui, c'est le procès de Régent Bacon, celui qui a personnifié le Père Noël durant plusieurs
années. Oh! Dans le petit Champlain en bas!
C'est commencé pour 6 semaines. Le jury a été sélectionné aujourd'hui. Vous savez que j'adore la sélection de jury.
Ouais.
Ah ouais.
J'adore ça. C'est tous des gens qui n'ont aucune idée de qu'est-ce qu'ils vont venir faire, qui débarquent au Palais de justice.
Mais là, ils
sont
demandent...
un peu apeurés, un peu.
Il lui demande quoi comme question? Croyez-vous au Père Noël? Ouais, c'est ça.
Non, c'est tout le temps une question générale pour savoir si ça va, ils vont être impartiaux ou non pour ce genre de dossier. Et là, on parle d'un homme qui est accusé d'agression sexuelle et de plusieurs chefs de proxénétisme.
Lui, à base, c'est agression sexuelle, puis c'est au fil de l'enquête. C'est quoi? C'est des gens qui ont porté plainte puis on s'est rendu compte que c'était plus grave?
En fait... Il a été... mon Dieu, ça commence à faire longtemps parce que ça traîne, ce dossier-là. Là.
Oui, ça me semble.
Oui, le procès était censé être tenu l'an dernier. Fait que là, on a eu un an de report. Il y a des victimes qui sont identifiées et il est aussi accusé d'agression sexuelle sur des victimes non identifiées. Okay. Donc, ça dit ce que ça dit. Là, j'en parlerai pas trop pour pas contaminer le jury, mais tout ça commence officiellement jeudi. Il y a des requêtes à trancher d'ici là et jeudi, on va commencer à entendre la preuve avec la déclaration d'ouverture et à ce moment-là, on en saura davantage et je pourrai parler des détails de l'enquête.
Merci beaucoup, Judith.
Merci à vous.
Si ça peut contribuer au procès, j'ai une photo de mes deux enfants avec le Père Noël en question.
Non, t'es-tu sérieux?
Très sérieux.
Si t'avais été sélectionné pour le jury... T'aurais peut-être pas été impartial, toi. Justement.
Ouais, c'est ça. Non, ça fait que c'est ça que j'aurais utilisé pour pas y aller, parce que moi, je te l'ai déjà dit, je veux pas être sur
je
un
sais,
jury.
Moi, je te donnerai jamais de trucs pour ça.
C'est
ton devoir de citoyen.
Mon devoir de citoyen d'aller m'ostiner avec 11 autres personnes.
Ce serait excellent.
Hey, que je suis pas sûr. Je pense que je serais horrible. j'ai trop de préjugés, je pense. Puis j'ai pas beaucoup de foi en l'humanité en général. Puis encore une fois, aujourd'hui, ça a pas aidé beaucoup. Hey, merci, Judith.
Merci.
Du fond du cœur. Judith Demel, journaliste judiciaire au Soleil. Il est 17h04. On s'arrête, on revient.